le 7-9.
Suite de cette matinale spéciale Covid-19, aujourd'hui, les invités du grand entretien avec Léa Salamé sont l'ancienne ministre de la Santé, la présidente de l'organisation de santé United, Marisol Touraine, et le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le professeur Éric Combes. Vous pourrez dialoguer avec eux, chers auditeurs, dans quelques minutes. Ils répondront à toutes vos questions. Vous pouvez les joindre au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Marisol Touraine et Éric Combes, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Beaucoup de questions déjà au standard. On va évidemment partir de l'allocution du président de la République hier soir, Emmanuel Macron, qui appelait à la mobilisation générale pour faire face à la plus grande crise sanitaire depuis un siècle. Il a promis que la priorité absolue pour notre nation serait la santé. Avant d'entrer dans le détail des mesures qu'il a annoncées, Éric Combes, est-ce qu'il a répondu à vos attentes ?
Oui, je pense que le président a enfin pris conscience de la situation. Et c'est très bien. Je trouve que la réponse est à la hauteur de l'enjeu, en tout cas sur le plan de la santé publique. J'ai juste peut-être un petit commentaire à faire concernant le personnel non médical, qui est quand même en première ligne sur cette affaire, avec évidemment le personnel médical. Et je pense que dans l'état actuel, la crise des hôpitaux, un petit geste pour les infirmières aurait été mieux que des mots d'empathie et de compassion.
On va y venir. Marisol Touraine, comment est-ce que vous avez reçu cette déclaration solennelle du président de la République ? Est-ce qu'elle est à la hauteur de la crise sanitaire que nous traversons ?
Je crois que oui, et que le président de la République s'est situé au niveau qui était attendu et qui est celui d'un président de la République, qui est celui du chef de la nation. C'est-à-dire que le président, hier soir, était à la fois chef de guerre, parce que c'est une forme de guerre que nous menons face à l'épidémie qui arrive, à cette vague que nous n'arrivons pas totalement à identifier, mais qui s'approche chaque jour un peu plus. Et il était aussi le chef ou le rassembleur de la nation en appelant les Français à la solidarité, à la cohésion, parce que c'est dans les moments de crise, c'est dans les temps difficiles, c'est dans l'épreuve que les pays se révèlent à eux-mêmes.
Et je veux dire que pour moi,
parce que la difficulté est devant nous, l'épreuve est devant nous, mais je veux dire quelque chose qui pour moi est absolument fondamental, c'est que dans ces moments-là, il y a évidemment la crise sanitaire, les mesures médicales à prendre, et nous allons évidemment, et le professeur surtout, en parler beaucoup, mais il y a la nécessité de la cohésion et de garantir à chaque Français que sa parole, ses droits seront respectés, et notamment ceux des plus fragiles et des plus faibles. Parce que dans ces moments-là, notamment dans un pays qui a été confronté à des tensions, qui est traversé de fractures, la tentation du repli, la tentation de la stigmatisation, de l'affrontement, peut toujours être présente. Et donc la parole du président pour appeler au respect, au rassemblement, à la cohésion, et donc au respect des droits de chacun, j'insiste là-dessus, me paraît tout à fait essentiel.
Restons sur la crise sanitaire pour commencer.
Éric Combes, vous demandiez des mesures il y a encore quelques jours, vous demandiez des mesures pour éviter un scénario à l'italienne et notamment un confinement. Vous disiez on a toujours un train de retard, arrêtons de courir après l'épidémie. Est-ce que vous pensez qu'on est toujours menacé par cette courbe à l'italienne, que le scénario italien peut se reproduire dans les prochains jours ici chez nous ou que les mesures annoncées par Emmanuel Macron pourront permettre de freiner cette courbe-là ?
Ben vous savez, c'est très difficile de faire des prédictions. On ne sait pas très bien en fait ce qui va se passer. Le génie évolutif de l'épidémie peut être très variable. Théoriquement, les mesures qui ont été prises devraient quand même permettre d'aplanir le fameux pic épidémique, c'est-à-dire de le transformer en un plateau et de rendre la gestion des malades beaucoup plus facile, sans oublier les autres malades qu'il ne faut pas oublier non plus.
Devrait, vous employez le conditionnel, il n'y a aucune certitude en la matière.
Non, je pense que c'est très difficile d'affirmer des choses et on peut pas prévoir l'avenir.
Alors, certains disent qu'il aurait fallu aller plus loin. Par exemple, les municipales sont maintenues dimanche. Est-ce que, à vos yeux de médecins à l'un et à l'autre, est-ce que c'est un problème ?
Ben, je pense que non, c'est pas un problème. Enfin, ça peut poser des problèmes, mais il faut prendre certaines précautions. Par exemple, on a demandé aux votants d'arriver avec leur propre stylo. S'ils sont malades, qui toussent, ils pourront porter un masque. Il faudra faire aussi attention aux assesseurs quand ils dépouillent les bulletins de vote. Mais si toutes ces précautions sont prises, je suis pas trop inquiet.
Marisol Touraine, la Belgique a fermé les cafés et les restaurants. Certains se demandent pourquoi est-ce qu'on continue à autoriser les transports en commun, de prendre le métro, zone de propagation du virus s'il en est. Est-ce qu'il faudrait aller encore plus loin ou pas il faut pas figer le pays, il faut pas bloquer le pays.
Le choix qui est fait à l'évidence par le gouvernement est de mettre en place une stratégie progressive et évolutive. Personne ne peut dire aujourd'hui que dans deux jours, une semaine, les salles de lieux publics ne seront pas fermées, que les bars, les restaurants, ou certains d'entre eux en tout cas, ne seront pas fermés. Mais le choix qui est fait, c'est de freiner la propagation de l'épidémie pour faire en sorte que les malades arrivent progressivement dans les hôpitaux, c'est vrai à Paris, mais c'est vrai également dans les autres régions de France, et faire en sorte d'éviter que tout le monde arrive en même temps, puisque c'est évidemment, c'est un peu contre-intuitif, enfin c'est évidemment en étirant l'épidémie, en faisant en sorte que les malades s'étalent dans le temps, que le système de santé pourra répondre le plus facilement à la situation.
Éric Combes, est-ce que nos hôpitaux sont prêts pour accueillir et pour soigner un afflux massif de personnes contaminées dans les prochains jours ?
Madame la ministre vous a apporté une partie de la réponse en vous disant qu'il était nécessaire d'étaler l'arrivée des patients pour pouvoir répondre du mieux possible à la fois aux malades du coronavirus, mais aussi aux autres malades.
Mais vous êtes en première ligne à l'hôpital de la Salpêtrière. Vous les voyez arriver. Est-ce que vous êtes déjà en état de saturation ? Est-ce que, par exemple, le fait de reporter les opérations non urgentes sont une manière de répondre au problème ?
Oui, évidemment, c'est une manière de répondre au problème, parce qu'en fait, il faut trouver de la place pour les malades qui arrivent. C'est ça notre challenge actuellement. On a beaucoup fermé de lits d'hôpitaux ces derniers temps. Il y a beaucoup de problèmes de personnel. Donc forcément, on est obligé de faire des choix. Et donc le choix, la priorité, c'est de gérer les malades du coronavirus actuellement.
Sur la question de ce qu'on appelle en langage technique la déprogrammation, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre d'interventions chirurgicales qui ne sont pas urgentes ne vont pas avoir lieu et qu'on libère de la place concrètement pour les malades urgents ou pour les malades du Covid-19. Oui. Je veux dire que c'est une stratégie très classique, c'est-à-dire que dans toute épidémie un peu massive, banal, je ne sais pas, mais en tout cas classique, la grippe quand elle est plus forte que d'habitude, au moment où nous avons eu disons Ebola et où nous avons dû à un moment donné prendre des mesures préventives, et puis surtout au moment des attentats, il y a des mesures de ce type-là qui sont prises. Il me semble que la question qui va se poser, c'est de savoir si ces mesures classiques vont être suffisantes et comment on peut monter encore en puissance en créant des capacités qui n'existent pas, c'est-à-dire ouvrir des lits, ce qui n'est pas forcément très difficile. Il arrive qu'on le fasse, par exemple. Si on le fait dans quelques semaines, il faudra de toute façon trouver des solutions pour accueillir des patients qui seront probablement en nombre plus important que ce que l'on a vécu traditionnellement.
Il faut que les étudiants en médecine, que les jeunes retraités médecins reviennent travailler de toute urgence, professeur Combes ?
De toute urgence, vous savez, la situation est très variable en fait d'une région à une autre. Il y a des régions qui sont beaucoup plus impactées que d'autres et qui sont beaucoup plus en souffrance. Actuellement, l'épidémie prend de plein fouet l'est de la France. C'est-à-dire, on parle beaucoup de la région parisienne, mais dans l'est de la France, Mulhouse, Colmar, même Strasbourg, si on a des problèmes dans ces régions-là.
Monsieur le professeur, vous nous disiez dans le couloir tout à l'heure, avant de rentrer dans le studio, qu'il y a un problème encore de masques. Vous parliez notamment de médecins qui n'ont pas reçu de masques. Vous parliez d'une ORL qui a le visage sur le nez et la bouche des patients et qui n'a pas de masque.
Oui, c'est ce qu'effectivement on m'écrit de manière assez régulière, mais pas uniquement les médecins libéraux. Hein. C'est un vrai problème aussi, par exemple, dans les structures médico-sociales, dans les EHPAD, pour les médecins généralistes. Et puis, évidemment, ça peut également devenir un problème dans les hôpitaux.
Il y a beaucoup de questions d'auditeurs, évidemment, et des questions extrêmement pratiques, et on va bientôt les retrouver. Mais le 15, le numéro qu'on appelle lorsqu'on a un souci de santé, le 15 est saturé. Qu'est-ce que vous dites ce matin à ceux de nos auditeurs qui ressentent des symptômes? Est-ce qu'il faut qu'ils appellent le 15? Est-ce qu'il faut qu'ils s'abstiennent?
Alors, cette histoire du 15, c'est vraiment une des erreurs majeures qui a été faite dans la gestion de cette épidémie. On a quand même saturé un numéro d'appel très important, parce que c'est quand même le numéro pour les infarctus, les accidents.
Oui, imaginons que quelqu'un fasse un infarctus et qu'il appelle le 15 en vain.
Voilà,
qu'est-ce qu'il doit faire?
C'est un numéro qui est fait pour des urgences médicales majeures, pas du tout pour soulager la corona paniquémie.
Mais alors, que faire? Dans le cas où
il faut un numéro vert, il faut une cellule pour s'occuper des patients qui sont inquiets, de gérer ce mouvement de panique et puis réserver le 15 aux appels urgents.
Marisol Touraine, qu'est-ce qu'il faut faire quand on ressent les symptômes? On n'appelle pas le 15, donc on appelle le numéro vert. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Je ne crois pas que le professeur Combes ait dit qu'il ne fallait pas appeler le 15, et je pense que ça dépend aussi de la situation dans laquelle on est, de la gravité des symptômes, peut-être aussi de son âge, c'est au professeur de le dire. C'est vrai que si on a des symptômes et qu'on a 85 ans ou qu'on en a 25, ça n'est pas nécessairement la même chose. Si on est inquiet, il y a un numéro vert qui a été mis en place, que je ne connais pas par cœur, j'en suis désolée, mais que l'on peut appeler 24 heures sur 24, et qui peut apporter des réponses à ce qui est simplement de l'ordre de l'inquiétude et du type de comportement à avoir. Si l'on ressent des symptômes, sans gravité, on peut contacter son médecin généraliste, et si on en éprouve le besoin, ou si on pense que la situation est plus compliquée, il faut appeler le 15, qui est aujourd'hui le seul numéro, disons, apte à répondre à des situations médicales susceptibles d'être graves.
Bonjour Benjamin et bienvenue sur France Inter.
Bonjour Ali Badou, bonjour France Inter. Comment réagissez-vous, professeur Combes, à la déclaration du professeur Gilles Padiou de l'hôpital Tenon qui dit que les cas sont finalement le Covid-19 est beaucoup plus grave que ce qu'il a été affirmé jusqu'à présent et qu'il touche des patients, des malades de moins de 40 ans dans certains cas et que ceux-ci, une fois sortis d'affaires, en auront pour 6 mois de rétablissement avec de la rééducation forte et appuyée.
Merci pour votre question, Benjamin. Votre réponse, professeur?
Alors, je pense qu'il faut quand même pas exagérer. Hein. Dans son immense majorité, la maladie n'est pas grave. Les enfants sont quasiment très peu symptomatiques. Alors, évidemment, et la plupart des adultes jeunes ne feront pas beaucoup de symptômes. La crainte, c'est les personnes âgées. Et bien évidemment, dans toute épidémie, dont le dénominateur commun est très important, c'est-à-dire il y a en fait des milliers de personnes infectées probablement, et dont un énorme pourcentage qui l'ignore, parce que la maladie est quand même en général pas trop grave. Mais malheureusement, c'est comme pour une épidémie. De grippe, ça peut aussi toucher des gens jeunes.
C'est ce que dit le professeur de l'hôpital Tenon. Il dit on s'est trompé, il faut arrêter de comparer le coronavirus à une bonne grippe, c'est bien plus grave. Et il parle effectivement, comme le dit Benjamin, notre auditeur, il parle de nombreux cas de malades jeunes et sans antécédents médicaux en état gravissime. Est-ce que vous le constatez aussi à la Pitié-Salpêtrière?
Oui, malheureusement, mais comme je le répète encore, la grippe tue chaque année 10 000 personnes dans l'indifférence quasiment généralisée. Donc, est-ce que ça va probablement être une super grippe, effectivement, mais la manière dont...
Super grippe.
Oui, c'est-à-dire, on dit qu'il faut pas comparer à la grippe, mais quand même, la grippe, ça parle aux gens, donc on peut comparer à ça. En plus, la grippe, on sait que ça fait environ 10 000 morts par an, donc voilà, c'est ça les données du problème. Après, malheureusement, oui, il y a des jeunes qui sont atteints, mais c'est avant tout les personnes âgées, les personnes fragiles.
Le numéro vert qui a été mis en place pour répondre aux très nombreuses questions qu'on peut se poser à propos du Covid-19 est le 0800 130 000. C'est un numéro vert. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Et bienvenue sur France Inter. Vous êtes infirmier?
Voilà, je suis infirmier en exercice libéral, justement. Et en fait, hier soir, après l'intervention de notre cher président, en fait, j'ai vu l'émission de Envoyé spécial, où on voyait un médecin qui était un petit peu énervé. Parce qu'en fait, il disait que, comme moi, on a reçu les masques chirurgicaux. Masques chirurgicaux qui sont efficaces contre les gouttelettes, mais qui ne filtrent pas les virus, en fait. Et nous, on voit une vingtaine de patients par jour, et on est potentiellement, vraiment, on est au contact, quoi.
Et vous êtes inquiet ?
Pardon ?
Vous êtes inquiet, Christophe ?
Je suis inquiet pour mes patients, moi. En fait, je voulais savoir si c'est bien joli de faire la technique du double masque, mais en fait, le truc, ce serait quand même d'avoir un équipement efficace avec une surblouse et une charlotte, un masque FFP2, quoi. Voilà, c'est un petit peu le questionnement. Je voulais savoir où ça en était, si c'était prévu.
Qui veut répondre à Christophe, professeur Combes, Marisol Touraine?
Je peux répondre si vous voulez.
Allez-y, professeur, savoir si c'est efficace.
Alors, bon, quand même, il faut rassurer, hein, il faut quand même dire que la transmission est avant tout par gouttelette, c'est-à-dire qu'un masque chirurgical suffit, surtout si c'est le patient qui porte le masque chirurgical, mais même si le soignant porte le masque chirurgical, ça protège vraiment très bien contre la transmission par gouttelette. L'incertitude, c'est est-ce qu'il n'y a pas certains patients qui pourraient transmettre par air? Mais ça, c'est surtout les patients et le personnel qui est au contact des patients qui sont hospitalisés, qui sont les plus graves, qui doivent être les mieux protégés. Car il n'est pas sûr que de tels patients se retrouvent en ville dans les mains d'un infirmier, je veux dire.
De nombreuses questions de nos auditeurs sur l'application France Inter, Marisol Touraine. Marie qui vous demande pourquoi ne pas autoriser le métro uniquement à certaines heures pour le personnel hospitalier uniquement. Cela permettrait peut-être de limiter la propagation du virus.
Peut-être que c'est une mesure à laquelle on viendra, on l'évoquait également hors micro, et le gouvernement doit sans doute, j'imagine, regarder l'ensemble des mesures qu'il est susceptible de prendre selon un calendrier échelonné pour répondre aux besoins de la population. Parce qu'arrêter les transports du jour au lendemain pour tout le monde dans la région parisienne, on voit bien que cela créerait de grandes difficultés. Cela dit, c'est une mesure qu'il faut regarder et il appartient au gouvernement de la regarder. Parce que je voulais revenir d'un point sur la question de la gravité de l'épidémie. Oui. Je ne suis pas médecin et spécialiste comme le professeur Combes,
mais
je
voudrais dire,
tout le monde s'interroge là-dessus, est-ce que c'est une grippe, pas une grippe, etc. Il me semble qu'il est important de rappeler, parce que on finit par l'oublier très régulièrement, chacun d'entre nous, que la grande inconnue, c'est le nombre de personnes qui va être effectivement touché par l'épidémie. Et dans la mesure où l'on dit qu'il y a une proportion dont on ne sait pas exactement ce qu'elle est, quel est le pourcentage de personnes touchées qui auront des difficultés graves, on voit bien que plus il y a de personnes touchées, plus le risque statistique augmente.
Mais Marie-Saël
et c'est
Touraine,
cela qui fait la différence avec une grippe classique qui a fini par apparaître banale, alors que ça n'est absolument pas banal. Et là-dessus, je rejoins le professeur Combes, c'est absolument pas une maladie banale, mais il y a un vaccin, nous n'avons pas de vaccin ici, nous ne savons pas comment va évoluer l'épidémie, mais moi je veux insister sur le fait que même si l'on est jeune, qu'on a le sentiment que l'on n'est pas à risque, dès lors que l'on est porteur du virus, on risque de contaminer son entourage et c'est bien cela l'enjeu.
La question du nombre de contaminés, c'est ce que disait Dominique Seux tout à l'heure en disant les Allemands, très vite, le gouvernement allemand a prévenu, il y aura 70% des Allemands qui auront le virus. Hier soir, le Congrès américain a rendu publique une courbe. Ici en France, on a des scénarios, mais on ne les donne pas. Est-ce qu'on n'est pas suffisamment adulte pour entendre que oui, peut-être qu'il y aura... Je veux dire, la grippe a touché 6 millions de personnes l'an dernier. Est-ce qu'il y en aura bien plus qui auront le Covid-19 ?
Éric Combes.
C'est très difficile à dire pour le moment, mais en général, une maladie infectieuse cesse quand... La plupart des personnes susceptibles ont en fait développé une protection parce qu'ils ont rencontré le virus.
Mais donc, ça n'a pas de sens de dire, par exemple, que X% de Français seront, d'une manière ou d'une autre, contaminés par le virus, comme l'a fait le gouvernement allemand.
En fait, Angela Merkel citait une étude américaine, une projection qui a dit qu'effectivement, il y aurait 70% de la population qui attraperait la maladie.
Hier, Patrick Peloux a donné le chiffre de 15 millions. Il a dit au moins 15 millions de Français qui auront le virus. Est-ce que c'est des chiffres délirants ? C'est aussi ça
Moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais je partage l'idée ou le sentiment que la mise en place d'une communication très pédagogique, très régulière et très pédagogique sur la manière dont évolue l'épidémie et les scénarios possibles serait utile plus que le décompte des cas repérés dans le pays. Parce que au fond, on sait bien aujourd'hui que, et d'ailleurs le gouvernement le dit, le directeur général de la santé le dit, les cas qui sont identifiés ne sont que ceux qui ont été testés, qui sont absolument estampillés Covid-19, mais on sait qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont la maladie.
C'est ce que vous disiez, professeur Combes, dans le couloir également, disiez il ne faut pas égrainer, ça contribue à la panique, cette espèce de point presse où on égraine le nombre de morts repris sur les chaînes d'infos et sur les réseaux sociaux.
Surtout quand on voit qui compte les morts. Quoi. Ça donne une image de l'État, je trouve, quand même vraiment terrible.
Pourquoi
quoi. Que ça soit le ministre, voire le directeur général de la santé, qui passe son temps tous les soirs à égrener le nombre de morts, ça m'apparaît relever d'une communication un peu bizarre.
C'est un problème de communication. Vous pensez que c'est de nature à faire paniquer la population ou est-ce que c'est un exercice de transparence qui permet de mesurer l'évolution de la maladie ?
Écoutez, je pense que Marie-Saël Touraine serait mieux placée que moi pour répondre à cette question.
Mais vous avez un avis puisque vous êtes très critique sur ces comptes rendus quotidiens.
Parce qu'en fait, les morts sont probablement un peu surestimé. Enfin, dire qu'ils sont surestimés, c'est pas tout à fait vrai. Mais enfin, on oublie de dire que beaucoup d'entre eux ont plus de 90 ans avec des pathologies sous-jacentes. Et surtout, le nombre de cas est complètement sous-estimé.
Oui, mais il faut absolument...
Marisol Touraine, on retourne au standard.
L'exercice de transparence est nécessaire, c'est-à-dire qu'en tout cas, il ne faut pas donner le sentiment que l'on cache quoi que ce soit, parce que dans ces moments-là, les théories complotistes fleurissent rapidement, et donc je comprends parfaitement que le gouvernement veuille avoir une communication de transparence et d'information. Il faut peut-être la transformer maintenant, mais en tout cas, ne rien cacher et expliquer aux Français. Moi, je suis absolument convaincue que les Français sont prêts à entendre. Nous sommes tous adultes et nous voulons que l'on nous explique. La pédagogie est nécessaire.
Et merci de le faire ce matin. Bonjour Geneviève.
Oui, bonjour. Bonjour Nicolas.
C'est Ali, mais vous êtes la bienvenue. Et vous aviez une question surtout qui s'adresse à Eric comme professeur.
Oui, c'est-à-dire que je suis, j'ai une fille qui attend un bébé et qui a une petite fille de 4 ans et demi. Donc on dit que les enfants sont porteurs sains. Je voulais savoir s'il y avait un risque pour une femme enceinte ou pour le bébé qu'elle porte si elle attrapait le coronavirus.
Bah, a priori, elle est en fin de grossesse, donc on peut être plutôt rassurant actuellement pour les fins de grossesse, en tout cas pour le troisième trimestre.
Et pour le début de grossesse?
Bah, pour le début de grossesse, on ne sait pas, puisque l'épidémie a commencé il y a 3 mois, donc c'est difficile de conclure.
L'idée de suspendre les visites dans les EHPAD, est-ce que c'est une mesure de bon sens, ou est-ce qu'au contraire, avec la solitude, on va créer d'autres problèmes et éventuellement laisser les personnes âgées, les personnes qui sont dans des EHPAD à leur sort?
Non, c'est une mesure de très bon sens. Comme vous savez, les personnes âgées, malheureusement, sont celles qui vont payer le plus lourd tribut à la maladie. Et donc, il faut les protéger.
Il faut les protéger. Est-ce que, Marisol Touraine, puisque vous êtes à la tête d'UNITED, qui est une organisation de santé qui lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, est-ce que vous êtes inquiète de voir abandonner la mobilisation contre ces autres épidémies?
C'est une question qui se posera dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, UNITED se préoccupe de savoir si les médicaments habituels pour lutter contre les maladies, en Afrique en particulier, sont bien toujours disponibles, ce qui semble être le cas. Mais notre mission de solidarité et la mission de solidarité internationale, elle sera encore nécessaire dans les prochains mois. Et évidemment, nous sommes inquiets à l'idée qu'il y ait une forme d'oubli ou de, disons, non pas de désintérêt, mais de moindre priorité donnée à ces enjeux-là.
Et on retourne au standard.
Juste une petite question, ça n'a rien à voir avec le coronavirus, mais on a appris il y a 2 jours qu'il y avait un deuxième cas de guérison du sida. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir?
On peut avoir de l'espoir dans la mesure où la recherche sur le sida a progressé de façon extrêmement rapide. Je crois que les scientifiques aujourd'hui regardent cette situation avec beaucoup d'attention, mais aussi beaucoup de questions. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas en mesure de dire aujourd'hui que nous avons là une perspective qui permettrait d'ouvrir des chemins de guérison assurés à la grande masse des malades dans le monde. Moi, je veux rappeler que la grande masse des malades dans le monde se situe dans des régions où la question aujourd'hui, c'est d'accéder aux médicaments à un prix abordable.
Justement, professeur Combe, beaucoup se demandent quand aura-t-on un vaccin pour lutter contre le Covid-19. Est-ce que c'est une bonne question à se poser? Et est-ce que vous pouvez donner une estimation du temps qu'il faudra aux scientifiques, aux chercheurs, aux laboratoires pour y parvenir?
Bah écoutez, ça a déjà été dit, c'est plusieurs mois de toute façon. Donc dans plusieurs mois, l'épidémie, j'espère, sera passée.
Donc ce sera trop tard pour cet épisode-là.
Ça sera trop tard pour cet épisode-là. Maintenant, il y aura la technique et probablement ça servira pour le prochain coronavirus qui ne manquera pas d'émerger d'ici une dizaine d'années.
Aujourd'hui, le traitement, c'est quoi quand on a le Covid-19? Est-ce que c'est adapté en fonction des patients, en fonction de leur âge, fonction de la violence de la maladie?
Pour l'instant, ça dépend beaucoup des formes cliniques, évidemment, mais il n'y a pas de traitement de la maladie, quoi. Il n'y a pas de traitement du virus pour le moment.
Justement, c'est l'une des questions que pose Christine, auditrice d'Inter. Pour quelles raisons on nous parle souvent, très souvent, de nous laver les mains, mais on ne parle jamais, dit-elle, de renforcer directement notre système immunitaire? Que lui répondez-vous?
On n'est pas sûr que le renforcement du système immunitaire soit suffisant pour traiter cette maladie. Peut-être même que ça pourrait l'aggraver, sait-on jamais. Parce que peut-être que les dégâts pulmonaires qui sont observés ne sont pas la conséquence du virus en lui-même, mais des conséquences de la lutte de l'organisme contre le virus.
Dernière question et d'un mot chacun. Est-ce qu'on peut être rassuré après l'allocution du président de la République et toutes les annonces qu'il a annoncées, ou est-ce qu'il faut malgré tout commencer à sérieusement s'inquiéter?
Professeur Combe. Je pense qu'il faut être très Il faut dire à ceux qui nous écoutent que de toute façon, on ne verra pas l'effet des mesures qui ont été prises hier avant 15 jours.
Marisol Touraine.
On est mobilisé et on peut être rassuré de voir que le gouvernement, le chef de l'État sont mobilisés et sont à leur poste face à cette forme, encore une fois, je dis, de guerre que nous avons à mener contre le virus.
Mobilisation générale, c'est le mot d'ordre. Merci en tout cas à tous les deux. Merci professeur Éric Combe et merci Marisol Touraine. À suivre dans le Carrefour du 7-9, la revue de presse de Claude Askolovitch et le billet de François Morel.